Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Encore quelques heures de suspense, le gouvernement révélera demain le contenu des 5 ordonnances réformant le Code du travail. Parmi les sujets abordés, la question des licenciements et du barème des indemnités à verser aux salariés en cas de litige devant les prud'hommes. Un plafond devrait être instauré, c'est une revendication des organisations patronales qui assurent que l'emploi est bridé du fait des incertitudes liées aux ruptures de contrat. En contrepartie, les indemnités légales de licenciement devraient être relevées de 25%. Alors les licenciements ont un coût, mais il n'est pas seulement financier. C'est une perturbation dans la vie de l'entreprise, pour ceux qui partent avant tout bien sûr, mais aussi pour ceux qui restent. C'est aussi une charge et une responsabilité pour la société qui doit assumer la solidarité avec ceux qui se retrouvent sans emploi. Alors qui doit supporter le poids des licenciements? Eh bien c'est la question que nous allons poser ce soir depuis le campus d'HEC à Jouy-en-Josas à l'occasion de l'université d'été du MEDEF. Et pour en discuter, j'ai le plaisir de recevoir 3 invités. Sophie de Menton, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la présidente du réseau Éthique. Éthique pour entreprises de taille humaine, indépendante et de croissance. C'est une association qui a déjà quelques années, qui a été créée par un certain Yvon Gattaz, le père de l'actuel patron du MEDEF aujourd'hui, Pierre Gattaz. Une association qui regroupe, si j'ai bien lu sur Internet, 350 entreprises et dirigeants. Vous avez notamment, à travers ce réseau, lancé l'opération J'aime ma boîte. Pour discuter avec vous, Jean-Paul Charlaise, bonsoir.
Bonsoir.
Vous présidez la NDRH. L'Association nationale des directeurs de ressources humaines. Vous êtes par ailleurs vous-même DRH du groupe ETAM, groupe de prêt-à-porter pour ceux qui l'ignoreraient encore. Et puis notre troisième invité, c'est Jean-François Madieu. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, professeur à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous travaillez notamment sur les relations sociales au travail. On vous doit en 2013 aux éditions du Seuil DRH le livre noir qu'on peut se procurer en format poche. Et puis l'an dernier chez Odile Jacob, un autre livre qui a sur un sujet assez différent de celui de ce soir, mais il faut quand même le citer, La société du paraître. Jean-François Madieu, on entend beaucoup dire, et c'est la question que je vais aussi poser évidemment à Sophie de Menton et à Jean-Paul Charlaise, qu'il y a des freins à l'embauche parce qu'il y a des difficultés à licencier. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, c'est difficile de licencier en France? Alors là, je ne parle pas d'un point de vue moral, mais disons d'un point de vue strictement administratif.
Ça fait depuis longtemps qu'il n'y a plus d'autorisation administrative de licenciement. Le point, il porte sur, on le sait bien depuis des années, sur à la fois le cadre légal, la jurisprudence et le coût des licenciements. C'est bien le sujet qui est traité et qui sera traité dans les ordonnances. Bon, il faut savoir que les Français ne sont pas vraiment convaincus, puisqu'il y a un sondage, je crois, ce matin, me semble-t-il, qui indique que les 2/3 des Français pensent que un allègement des indemnités de licenciement ou des indemnités qui seraient accordées en justice ne créera pas de l'emploi et que ce sera plutôt le contraire. Donc les Français peuvent se tromper, mais il n'y a pas vraiment cette conviction. Alors cette corrélation entre la facilité, finalement, le licenciement, le rendre moins coûteux, plus facile, et la création d'emplois, bon, c'est un débat qui continue à animer les spécialistes. Mais on peut douter d'un lien aussi évident que ça.
Ça n'est pas si compliqué que ça, Sophie de Menton, de licencier aujourd'hui en France. En tout cas, ça l'est beaucoup moins que ça ne le fut à l'époque où il y avait cette fameuse autorisation administrative de licenciement, ce qui nous renvoie dans les années 70-80.
Oui, là, c'était carrément une aberration totale parce que c'était absurde. Alors, c'est plus compliqué que ça. Et vous qui êtes un sociologue, vous me dites qu'il y a eu un sondage qui dit que les Français... pense que ça ne créera pas d'emploi. C'est bien aussi un problème un peu de notre rapport au travail, à l'entreprise et la méfiance des Français. Je crois qu'il faut dépasser ça. On a tendance, par exemple, déjà en France, à considérer qu'il faut scotcher un salarié à sa boîte parce qu'il ne retrouvera pas de travail. Sans qu'il y ait de corrélation avec la croissance. On pense que bien interdire les licenciements, il y a même Bernard Tapie à un moment donné qui avait suggéré d'interdire les licenciements. C'est une espèce de peur française qui est navrante et qui n'existe pas dans les autres pays et qui est très contre-productive.
Il n'y a pas d'interdiction aujourd'hui en France de licenciements. On en est quand même très très loin.
Très loin, mais il y a un poids social, il y a un poids juridique, il y a un poids du code du travail, il y a un poids syndical. Et d'abord, ça coûte cher, c'est difficile. Et du coup, il n'y a pas de flexibilité non plus. Et nous le regrettons beaucoup parce que le salarié qui est licencié, c'est vrai que dans certains cas, il mettra beaucoup plus de temps qu'ailleurs. D'un autre côté, c'est pour ça que c'est si compliqué, on s'aperçoit que comme par hasard, les gens retrouvent du boulot dans les 2 mois qui précèdent la fin de leur chômage.
Jean-Paul Charlez, il y a énormément de types de licenciements, enfin énormément, il y a plusieurs types de licenciements qui existent et donc des dispositifs différents en fonction du type de licenciement. Est-ce que quand on est un DRH ou un patron, on a, on va dire, des outils suffisants pour, si nécessaire, si c'est jugé nécessaire, licencier ?
La réponse est oui, mais pour reprendre la question de tout à l'heure sur le frein à l'embauche, c'est les freins à l'embauche, d'abord, c'est le fait de savoir s'il y a de l'activité ou s'il n'y en a pas. Parce que quand on embauche quelqu'un, on ne pense pas à son licenciement et à son départ.
Ah ben ça, c'est une question justement que j'allais vous poser. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup et qui me frappe à chaque fois. C'est-à-dire que, comme je crois qu'à un moment donné, quand on a préparé l'émission, vous faisiez le parallèle qu'on pourrait voir avec le divorce, mais le divorce dans un couple. Je veux dire, quand on se marie, par exemple, on ne pense pas, on ne se dit pas, tiens, je vais me marier, mais je vais vérifier que ce sera facile de divorcer. Sinon, je ne vais pas me marier. A priori, c'est quand même la même chose quand on embauche quelqu'un dans une entreprise.
Bien sûr, c'est pour ça que les freins à l'embauche, c'est le fait de savoir si l'entreprise a de l'activité ou pas. C'est la difficulté qu'on a parfois à trouver des ressources sur le marché du travail. C'est peut-être l'instabilité du droit et de l'environnement. Et je ne pense pas que ce soit les risques de licenciement. Il ne faut pas oublier une chose non plus. C'est que 75% des ruptures de contrat à durée déterminée sont faites sous la forme de démission ou de rupture conventionnelle, c'est-à-dire avec le consentement du salarié. Et que les licenciements ne représentent que pratiquement 20% des causes de rupture de CDI.
Oui, mais là, je vous arrête parce qu'effectivement, c'était une avancée, c'est vrai. Le licenciement par consentement mutuel, ça a été aussi... Ça coûte très cher, ça coûte beaucoup plus cher à l'entreprise. C'est assez compliqué. Les patrons, très souvent, sont confrontés à ça. Et on a inversé la tendance, c'est-à-dire qu'on voit un salarié, je vois un salarié qui arrive et qui dit « Bon, bah, écoutez, je veux partir, donc vous me licenciez d'un commun accord. » Et les patrons refusent, disent « Non, je ne vous licencie pas, c'est très violent, je n'ai pas envie de vous licencier, vous êtes très bien là où vous êtes. » Et il y a une contrainte, on a inversé les choses, il y a une contrainte maintenant, le patron, il a un poids parce qu'on considère que c'est pas sympathique de sa part de ne pas licencier.
Vous n'êtes quand même pas en train de nous dire qu'aujourd'hui, dans le monde de l'entreprise, ce sont d'abord les salariés qui veulent partir et qu'on empêche de partir et qu'en termes de licenciement, ça vient plus des salariés que des employeurs.
Il y a des cas extrêmement différents. Il y a des emplois, il y a des secteurs sous tension où on ne trouve pas de gens, où les salariés sont rois, honnêtement. Et puis, il y a des secteurs où c'est épouvantable. On sait bien que l'usine en province, enfin, éloignée, etc., il ne retrouvera pas et ça, c'est horrible.
Enfin, oui. Jean-François Badiou, c'est compliqué de se faire licencier aujourd'hui en France.
Non, je crois qu'il faut quand même reprendre les... Enfin, je crois que pour la NDRH, vous le rappeliez très bien, quand on regarde l'état du marché du travail aujourd'hui, c'est l'essentiel de la perte d'emploi, c'est des fins de CDD ou de mission d'intérim. Ensuite, ça va être de la rupture conventionnelle, mais pour l'essentiel, à l'initiative ou à la demande en fait, de l'employeur. Ça va être un quart de cas... C'est quand même le cas le plus fréquent. Ensuite, vous avez un quart de cas, vous allez avoir du licenciement, entre guillemets, pour cause réelle et sérieuse, disons, pour raison personnelle. Là, on n'est pas dans du motif économique. Et donc, en fait, des démissions, il y en a finalement très peu. La rupture conventionnelle. J'ajoute que ce type de rupture sont faits également pour éviter d'éventuels incontentieux qui pourraient effectivement au prud'homme être plus coûteux encore. Donc c'est la question qui est posée. Maintenant, je vous rejoins sur le fait que ça puisse être coûteux en effet pour les employeurs en l'état actuel.
Jean-Paul, la rupture conventionnelle, c'est aussi un problème. Et la preuve, c'est que l'actuel gouvernement a décidé, Emmanuel Macron, ce qui a stupéfait tout le monde, est-ce que j'ai trouvé une bonne idée, de mettre un salarié qui quitterait sa boîte au chômage. Il aurait droit au chômage. Et donc, a priori, on a trouvé ça stupéfiant. Pas du tout. C'est assez intelligent. Il n'y a pas de flexibilité. Les gens ont peur de changer de boulot. Il n'y a pas cette flexibilité de l'emploi en France. Et de permettre une fois, alors je crois que c'est une fois tous les années, etc., ce serait très limité.
Tous les 5 ans.
Mais ça éviterait
dans le programme, en tout cas,
une rupture conventionnelle bidon.
Mais alors, oui. Je trouve ça intéressant, justement, cette idée, justement, de permettre à une personne qui démissionne de toucher quand même le chômage.
Le risque,
parce que
voilà.
Ça oblige, de toute manière, à revoir le système d'assurance chômage tel qu'il existe aujourd'hui, avec l'idée, alors là aussi, c'était dans le programme du président de la République, d'étatiser l'assurance chômage. Ça remet en cause le principe de la solidarité, justement, de qui assume le poids, justement, des licenciements, Jean-Paul Charles.
Oui, alors... Il faut quand même être bien conscient du scope des ruptures de contrat. 60% des fins de contrat à durée indéterminée sont des démissions. Alors qu'aujourd'hui, comme chacun sait, sauf dans des circonstances très particulières, suivre un conjoint ou quelque chose de genre, elles ne donnent pas accès au chômage. Deuxièmement, sur la rupture conventionnelle, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ma voisine, dans la mesure où c'est une formule qui a énormément de succès. On a cette année, je crois, 400 000 ruptures conventionnelles, c'est-à-dire qu'on a autant de rupture conventionnelle que de licenciement. Je ne pense pas, pardonnez-moi, que ces ruptures conventionnelles soient systématiquement à l'initiative de l'employeur. En tout cas, on a affaire à des personnes qui sont adultes, majeures et vaccinées, et donc à partir du moment où le consentement est nécessaire, il faut quand même être deux. Donc je crois que le licenciement, il est aujourd'hui assez récessif. Alors après, sur le dernier point, est-ce qu'il faut permettre aux personnes qui démissionnent d'accéder au chômage ? Je pense qu'il faut être assez prudent sur le sujet. Parce que, par exemple, d'un côté, on va maintenir la retraite à 62 ans. Si on permet à quelqu'un qui démissionne d'accéder au chômage, tous les gens vont partir à 59 ans, indemnisés pendant 3 ans à 70% du salaire net.
Ah non, mais attention, ça dépend effectivement du temps de l'indemnité, etc. C'est juste pour couvrir le risque de la période d'essai. Parce que vous quittez un boulot, vous faites une période d'essai 3 mois, et paf, ça ne marche pas, vous êtes au chômage. Donc je suis d'accord, c'est à prendre avec des pincettes. Mais l'idée est intéressante.
En tout cas, Jean-François m'a dit aussi, cette idée aboutit, est-ce qu'on peut dire que ça modifierait quand même le partage de la responsabilité de l'absence de travail, du chômage?
Bien sûr, puisque ce qui est en jeu, et on le voit aussi, c'est toute la question des indépendants et de leur accès à des indemnités également. Donc c'est la question de la sortie d'un système, et on sait que c'est ça qui est en jeu, qui était un système d'assurance, de solidarité, au profit d'un système qui est entre les mains des pouvoirs publics et qui repose sur la contribution, de la nation, et pas seulement des salariés et des employeurs. Donc évidemment, c'est un choix. C'est vrai que d'autres pays l'ont fait, mais évidemment, les problèmes que ça pose sont multiples, et en particulier, alors il y en a un qui est très important, je le souligne quand même, c'est que les partenaires sociaux s'en sont inquétés. C'est une question aussi de dialogue social.
Oui, parce qu'il faut rappeler que c'est une gestion paritaire.
C'est une gestion paritaire, ils l'ont tous dit d'ailleurs, ils y sont attachés, que ce soit le MEDEF ou les organisations syndicales, donc il ne faut peut-être pas le sous-estimer. Et puis il y a surtout un problème de fond, c'est que, je pense qu'on y reviendra, c'est qu'il vaut mieux être dans un système où il y a une responsabilité, en particulier bien sûr des employeurs, dans ce qui est provoqué, c'est-à-dire la perte d'emploi. C'est pour ça que le fait que le démissionnaire puisse bénéficier de l'indemnité pose une question, mais également le fait que l'employeur ne soit pas dans un système où il assume, il demanderait, si vous voulez, à la collectivité ou à la nation d'assumer les responsabilités de décision qu'il prend lui-même. C'est pour ça que, à la limite, il vaut mieux un système à l'américaine ou des systèmes qui ont été proposés, comme on le sait, par Jean Tirole et d'autres, sur un système, le pollueur-payeur, finalement, qui est un système finalement plus juste, comme il existe d'ailleurs déjà en partie pour les accidents de travail, les cotisations accidents de travail des grandes entreprises.
Alors justement, sur cette question de la responsabilité, pour poursuivre un petit peu notre cheminement, notre réflexion sur les licenciements ce soir dans le cadre du Grain à Moudre, Jean-Paul Charles, est-ce que vous seriez d'accord, et Sophie de Menton, la question est la même, pour dire que le premier responsable du licenciement, c'est l'employeur, parce que c'est celui d'abord qui va devoir assumer dans un premier temps financièrement le coût de ses licenciements, mais aussi parce qu'il c'est aussi une forme d'échec, c'est-à-dire licencier quelqu'un, c'est reconnaître soit qu'on s'est trompé sur le profil de cette personne au moment où on l'a embauché, qu'on ne l'a peut-être pas formé correctement et qu'elle ne correspond plus à ce qu'on souhaite qu'elle fasse, ou bien parce qu'on a suivi une mauvaise stratégie et que du coup on se retrouve dans des difficultés économiques qui obligent à licencier. Jean-Paul Charles.
Oui, alors il y a licenciement et licenciement. Il ne faut pas confondre les choux, les carottes et les poireaux. On a des licenciements économiques qui effectivement résultent de difficultés au sein de l'entreprise. Là, pour le coup, l'employeur, il a quand même, il assume une partie de la responsabilité financière de l'opération via les congés de reclassement, via les CSP. Il assume la priorité de réembauche, etc., etc. Et puis, il y a les licenciements pour cause réelle et sérieuse, les licenciements pour faute, les licenciements pour insuffisance. On ne peut pas dire que, je sais pas moi, si vous avez un salarié qui tape dans la caisse, on peut pas dire que c'est la responsabilité de l'employeur s'il le licencie. Donc, il faut être assez prudent sur ces choses-là.
Licenciement pour insuffisance, ça veut dire quoi ? Quelqu'un qui est inapte ?
Vous avez un certain nombre de...
Alors, parce que ça veut bien dire qu'il y a eu quand même une erreur dans le recrutement. Attendez,
excusez-moi, là je voudrais le dire parce qu'il y a quelque chose qu'on n'ose pas dire. Ah. C'est que, quelquefois, pardonnez-moi, on licencie des gens parce qu'ils ne sont pas bons. Et quand, parce qu'ils ne sont pas bons, parce qu'ils ne font pas bien le métier, parce qu'il y en a qui deviennent... qui sont pas dynamiques parce qu'ils sont pas bons. Et je veux dire, dans des petites entreprises, avoir quelqu'un, un vendeur qui vend plus, une fille au marketing qui s'intéresse plus à ce qu'elle fait, ça existe, ça. Et alors, il y a un politiquement correct.
Il y a aussi des patrons qui sont pas bons.
Voilà, mais non, je suis désolée. Il y a un politiquement correct. Le salarié, il est toujours bon. Le patron, c'est toujours de sa faute. Non. Il y a des patrons. C'est pas la majorité des cas où on vire un salarié parce que il est pas bon, parce qu'il est dépassé, parce qu'il est pas au point, même si on l'a formé avec les nouvelles technologies, parce que voilà, il faut changer.
Jean-Paul Charles, combien de salariés qui ne sont pas bons vous licenciez chaque année chez Etam?
Non mais pas bon, c'est très relatif. Ouais.
Quelque chose me dit que vous n'allez pas vraiment répondre à
un salarié,
cette question-là.
Non, si. Un salarié, il est perfectible sur deux points. Il est perfectible sur sa compétence. Et il est perfectible sur sa motivation. Oui. Et sa motivation, il la trouve en lui. Bon. Une fois qu'on a dit ça, l'employeur, il a la responsabilité de développer et la compétence et la motivation des salariés. Parfois, vous tombez sur des gens qui, pour des raisons diverses, n'ont plus envie de faire le travail qu'ils font et qui n'ont pas envie d'en faire un autre au sein de l'entreprise. Vous ne pouvez pas, à ce moment-là, dire « Bon, bah, très bien, on va attendre que ça se passe et on va attendre qu'ils partent à la retraite. » Vous êtes bien obligé de prendre vos responsabilités. Donc, je suis assez d'accord.
Donc, vous prenez vos responsabilités et ce salarié considère que ce licenciement est injuste, se retourne devant les prud'hommes et il arrive que les prud'hommes donnent raison au salarié qui a été licencié. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a eu une erreur, que c'est un licenciement, par exemple, qui a été mal fait ?
Ça veut dire que un certain nombre d'employeurs et parfois un certain nombre de DRH ne regardent pas exactement les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire qu'ils prennent un peu trop le parti de l'entreprise face aux salariés. Une entreprise qui a une vraie expertise RH, vous n'avez pas de licenciement sans cause réelle et sérieuse qui pourrait être après reconnu par les prud'hommes. C'est pour ça que l'histoire du plafonnement des indemnités, d'ailleurs que je ne suis pas d'accord sur le thème, je pense qu'une barémisation des dommages et intérêts est particulièrement justifiée, mais les indemnités, quand un licenciement est fait sans cause réelle et sérieuse, elles doivent être payées et décidées par un juge.
Vous parlez de toutes les boîtes qui ont des DRH, hein, excusez-moi, mais il y a toutes celles qui n'en ont pas.
Alors justement, on va aller sur ce terrain-là, sur la responsabilité particulière qui est celle des DRH, des responsables du personnel, quand ce sont des entreprises qui en ont. Ce que disait Jean-Paul Charles, Jean-François Madieu, c'est souvent, des fois, les DRH sont plus proches du patron que des salariés. C'est un poste qui est compliqué, justement, à assumer dans le cadre d'un licenciement, c'est-à-dire l'évolution de ce métier tel que vous la voyez, ça serait quoi ? Ça serait des DRH qui se sont rapprochés des directions et qui se sont éloignés du personnel ?
Non, ils ont toujours été, effectivement, proches des directions. Ils ont intégré les comités de direction il y a déjà pas mal d'années et c'est leur rôle, hein. Il faut pas qu'il y ait de malentendu, simplement ils sont dans une position qui est faible, ils ne sont pas suffisamment entendus, ils le disent, par leurs homologues dans les comités de direction, donc
le problème, ça veut dire c'est quoi, une position qui est faible,
si vous voulez, on peut prendre un indicateur, combien de DRH sont devenus présidents de grandes entreprises du CAC 40, c'est-à-dire quelle est leur autorité, peuvent-ils être entendus de ceux qui vont décider, par exemple, des plans de réduction d'effectifs à un moment donné. Et c'est le problème des DRH. Donc, ils sont souvent dans une position très délicate. D'ailleurs, ils écrivent des livres. Hein, pour beaucoup d'entre eux, il y en a qui disent qu'ils ont été heureux, mais beaucoup disent que c'est une position qui est compliquée pour eux. Ils sont mal vus et très mal perçus dans les sondages par les salariés. ils assument des missions qui sont ingrates, en effet, les réductions d'effectifs. C'est pour ça que les sondages ne leur sont pas très, très favorables. En fait, assez injustement, je le dis devant un représentant des DRH, parce que ils ont le mauvais rôle, souvent de refuser à l'embauche des gens, parce qu'on en refuse plus qu'on en prend. Ensuite, de devoir assumer les décisions, par exemple, et de gérer les réductions d'effectifs, c'est compliqué. Donc, ils ont ce problème. Je voudrais dire qu'il y a un sondage où on apprenait cette année que 46% des DRH indiquaient qu'il leur arrivait d'agir contre leur éthique. Je pense que vous avez vu ce sondage. Ça vise surtout les opérations de licenciement, en fait. C'est dans ces épisodes-là que les DRH sont souvent ennuyés. Donc, pour eux, c'est compliqué. Je crois que c'est un élément qu'il faut avoir en tête. C'est un élément absolument central. Il faut bien se rendre compte que par comparaison internationale, aussi bien en Europe que dans tous les pays du monde, quand vous regardez tous les sondages qui existent, et les plus récents, 2016, 2017, etc., à chaque fois, on observe que la confiance que les Français ont dans les dirigeants des grandes entreprises, je ne parle pas des TPE, des PME, mais dans les grandes entreprises, et la confiance qu'ils ont à ce sujet est la plus mauvaise. D'ailleurs, la France est toujours extrêmement mal placée. Ça, c'est une caractéristique très forte. Ce qui fait, ça permet de comprendre beaucoup de choses, ce qui veut dire que au fond, quand vous menez des politiques de réduction d'effectifs avec des licenciements qui peuvent être, comme vous le disiez, parfaitement justifiés ou pas, oui, mais le problème, c'est que les Français vont être extrêmement critiques et ont le sentiment que le management français n'est pas, à leurs yeux, satisfaisant.
Jean-Paul Charlès, est-ce que vous vous reconnaissez dans ce portrait du DRH que vient de nous brosser Jean-François Amadieu ?
Non, évidemment non. Enfin, je ne sais pas comment sont les professeurs d'université, je m'abstiens d'en parler, mais en tout cas les DRH, je les connais. On a, pour faire notre travail, une base technique indispensable.
Si les sociologues ne parlaient que des sociologues, en même temps, ça tournerait un petit peu en rond. Il faut bien quand même qu'ils aient d'autres champs d'études.
On a surtout besoin du facteur humain. Et on a besoin de pouvoir se regarder le matin dans la glace sans rougir de ce qu'on a pu faire. C'est-à-dire que je ne suis pas d'accord pour dire que le DRH est uniquement d'un côté, en l'occurrence celui des directions générales. Moi, quand je reçois des personnes, je suis au moins aussi attentif à ce qu'ils peuvent me dire et à la façon dont je m'occupe d'eux, même si ce n'est pas toujours nécessairement extrêmement agréable, que je me sens proche de la direction générale. Donc je crois que c'est un métier qui, au contraire, nécessite beaucoup d'éthique. Et si quelqu'un considère dans son métier qu'il n'est pas conforme à sa morale ou à son éthique, il n'a qu'à changer de métier. Moi, je ne resterais pas une fois, une journée dans une entreprise si je faisais quelque chose avec lequel je n'étais pas fondamentalement d'accord.
Sophie de Menton.
Alors, je dirais par rapport à ça, ayant tout connu, ayant eu moi-même des DRH, ayant un mouvement patronal où il y a des boîtes sans DRH et d'autres avec, que c'est extrêmement complexe. Oui, alors, un point, oui, le rôle de DRH est difficile. Non, le DRH n'est pas du tout toujours du côté de la direction. Il est effectivement une sorte de tampon parce que c'est compliqué. Il a des ordres de la direction. C'est vrai, quand il y a un plan social, il y a un plan social. Hein. Mais il est attentif, donc il a un rôle effectivement de transition entre les deux. Mais je veux dire que cette mauvaise image, c'est encore le reflet, pardonnez-moi, d'un état d'esprit français. C'est-à-dire que nous avons, nous, des syndicats qui sont dans le monde entier parmi les plus hostiles. Nous avons quand même la lutte des classes dans l'entreprise et il y a quand même, ça reste quand même là, et il y a quand même le fait que licencier, c'est un acte non éthique.
Ouais, enfin, il y a certains patrons ou voire certains anciens DRH qui y mettent un petit peu aussi du leur pour contribuer à cette mauvaise image. Je voudrais juste rappeler par un cas extrêmement récent. Cet été, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, dont on apprend qu'elle a fait une plus-value assez conséquente lorsqu'elle était DRH chez Danone après avoir acheté des stock options, puis les avoir revendus.
C'était pas lié. Oui. Dieu sait alors, si j'ai regardé ça attentivement. Voilà, alors,
C'était scandaleux qu'elle ait gagné de l'argent. Elle revend des stock options quelques jours après l'annonce de suppression
c'était
de 900 postes
chez Danone. Depuis longtemps, il y a des dates dans les stock options. Je ne suis pas d'accord pour accuser.
Il ne s'agit pas de dire que c'est illégal, mais du point de vue de la confiance, on va dire, c'est peut-être pas la meilleure chose
mais
à faire pour donner confiance. Moi, si je suis salarié chez Danone, je ne suis pas sûr que ma DRH, je la regarde d'un très bon œil, vous voyez.
Je considère qu'il y a des équipes. Danone est une boîte qui a fait participer ses salariés à la croissance. Ça s'appelle les stock options. C'est mal vu. Le stock option est détesté dans le vocabulaire français. Oui,
non, mais là,
les DRH peuvent en avoir.
C'est plutôt la façon de les utiliser.
Alors écoutez, ça, je n'accuserai pas. je n'accuserai pas. Cette... On a regardé ça attentivement. Il n'y a pas de lieu d'accusation. D'ailleurs, elle n'a pas été accusée. Elle a fait des choses légales. Bon, alors que vous ne l'aimiez pas, c'est une chose.
Moralement, politiquement, c'était,
je pense
c'était un peu plus
moralement, en France,
condamnable.
L'éthique n'est pas... L'éthique en France, c'est surtout de ne pas gagner d'argent et de ne pas licencier. À partir de là, je ne suis pas d'accord. On peut être éthique et licencié, et être éthique et gagner de l'argent.
Allez, je rappelle que le mouvement que vous dirigez s'appelle Éthique, justement. Jean-François Madieu.
Oui, non, mais justement, puisque c'est les universités du MEDEF, on sait bien regarder derrière nous et depuis quelques années comment a évolué cette question de la rémunération des dirigeants, des stock options, et puis cette question de la régulation de ces rémunérations. Et vous savez très bien que les seuls engagements de bonne volonté n'ont pas été toujours suffisants et que d'ailleurs les pouvoirs publics sont obligés toujours d'aller un peu plus loin pour armer, par exemple, les assemblées d'actionnaires ou d'autres dans cette régulation.
L'État, donc, d'ailleurs, étant un très mauvais actionnaire qui vote des salaires...
Un phénomène international et qui conduit à se réfléchir à cette régulation.
C'est vrai.
Pourquoi on réfléchit à cette régulation,
à
cet encadrement des rémunérations et des stock options? C'est vrai dans tous les pays, y compris aux États-Unis, tout simplement parce que, effectivement, peut-être que ça met à mal, et c'est un fait, peut-être que ça a pu mettre à mal la confiance, le crédit que les salariés portaient à l'égard des très grandes entreprises et de leurs dirigeants. Donc ça, c'est une difficulté. Et peut-être que ce qui est un peu dommage, c'est que, justement, les DRH n'aient pas toujours pris des positions, que c'était difficile pour eux de le faire. Ils ne l'ont pas fait. Oui, mais justement, il y a un point de discussion. Est-ce que c'était leur boulot de traiter de la rémunération, du package de rémunération du dirigeant, ou simplement traiter de la rémunération des salariés? On va dire que ce n'est pas leur boulot parce que c'est les comités de rémunération qui, en effet, s'occupent de la rémunération des dirigeants. Oui, peut-être. Mais au fond, dans la pyramide d'une entreprise, vous avez des salariés, de l'ouvrier au dirigeant. On est dans le même bain. Et peut-être que là-dessus, je trouve que les DRH auraient dû être peut-être plus allants pour accompagner cette réflexion et ne pas la laisser juste aux dirigeants.
Juste une petite réaction de Jean-Paul Charlez.
D'abord, on ne parle pas de la rémunération de Neymar ou de Mbappé, hein, quand même. Mais sur le fond des choses, il y a des règles qui sont fixées pour les rémunérations des équipes dirigeantes. Ces règles prévoient des formes d'intéressement au capital. Ces formes d'intéressement sont encadrées par la loi, sont taxées, généralement de plus en plus fortement d'ailleurs. Moi, ça me choque pas qu'un cadre de l'entreprise, un membre du comité de direction, fût-il DRH, ait accès à ce genre de choses. Voilà, point.
Voilà, vous aviez posé une question à laquelle on n'a pas répondu. Est-ce que c'est le patron? Vous avez posé la question.
Qui doit assumer la responsabilité? Oui. Alors justement, ça tombe bien. Vous voyez, on voit que vous avez fait de la radio pendant de longues années, Sophie Demonton, parce que j'allais justement y venir, puisque vous disiez, en tout cas tout à l'heure, il y a certaines entreprises, de toute manière, où il n'y a pas de DRH. Donc, qui est-ce qui doit assumer ce poids du licenciement? Je voudrais vous faire, alors justement, avant d'aller sur ce thème, vous faire écouter un extrait d'un film dont vous vous souvenez peut-être, qui date de 1982. C'est un film de Pierre Granier-Defer qui s'appelle « Que les gros salaires lèvent le doigt ». Il y a notamment Jean Poiret, Daniel Auteuil et Michel Piccoli. Et ça raconte l'histoire d'un patron d'une société qui va organiser un week-end chez lui, dans sa propriété, avec ses cadres. Les cadres ne le savent pas, mais l'objectif de ce week-end, c'est de dégraisser.
Bon, quand je vous explique un peu la règle du jeu... Il faut en effet que je me sépare de 4 d'entre vous. Eh oui. Les bons résultats ne sont qu'une façade. L'agence traverse une crise, provisoire, je l'espère, mais douloureuse quand même. Vous êtes trop bien payés, messieurs, dames. Eh oui, les salaires ont grimpé, par ma faute, par la vôtre, je sais pas, je veux pas le savoir. En tout cas, le courage me manque pour désigner comme ça brutalement 4 victimes. Alors j'ai décidé de faire ça sous forme de jeu. Les chaises musicales, je suppose que tout le monde connaît ça. Vous savez, on fait tourner des gens autour d'une table, et au signal de l'arbitre, et l'arbitre, cette fois-ci le noir, ce sera moi, au signal de l'arbitre, les gens s'arrêtent de tourner. Ils n'ont plus qu'à s'asseoir. Seulement pour 8 joueurs, par exemple, on dispose uniquement 7 chaises autour de la table. Vous voyez le principe? Pour 7, 6, pour 6, 5... Et ainsi de suite. Celui qui restera debout aura perdu sa place à la table et à l'agence.
Voilà un patron qui aurait peut-être été mieux
part.
Sophie de Menton. Non, bien sûr. Alors, c'est un film, c'est une fiction. Et évidemment, au-delà de
oui, mais
du côté extrêmement
sourire. Il y a des gens qui nous écoutent, qui se disent, ah ouais, quand même, c'est salaud de patron.
Non,
ben
parce
non,
que
ça n'existe pas.
Alors, c'est pas. Non, je crois pas que ce soit salaud de patron, parce que c'est pas du tout l'image qu'on retient à la fin du film à propos de Jean Poiret. On y voit plutôt quelqu'un, un patron, qui est totalement démuni, qui ne sait pas comment s'y prendre justement pour licencier, pour l'annoncer, et qui se dit, ben voilà, finalement, je ne sais pas qui choisir, et je vais laisser faire le hasard.
Bah,
le tirage au sort, pour le coup, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on étudie beaucoup. Et celui-là se dit, bah voilà, moi, c'est la seule façon que j'ai trouvée, parce que je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment faire. Justement, quand on n'a pas de DRH, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on
être
assume?
Être un patron, vous savez ce que c'est? C'est être quelqu'un qui est capable de prendre des décisions humainement insupportables. C'est, nous nous le disons, c'est là-bas, c'est une définition.
Et c'est ce qui fait le patron qu'on vient d'entendre là.
Non, attendez, il tire au sort. Et un patron, prendre une décision humainement insupportable, c'est convoquer quelqu'un, dire écoutez, voilà, j'ai un plan de licenciement, j'ai décidé qu'il y en avait trois qui partiraient, je décide que vous partez, et c'est insupportable. Et,
quelle que soit la taille de l'entreprise, vous diriez, Sophie de Menton, que c'est au patron
oui.
d'assumer
alors
ça.
Alors ça, vous avez tout à fait raison de me poser la question.
Merci.
Je pense que c'est le cas dans les PME de fait. Et moi, je pense que quand il y a un plan social, alors je sais bien, vous ne serez peut-être pas de mon avis, mais je sais bien qu'il y a des DRH qui sont supposés faire ça. Je pense que ça doit être partagé en tout cas. Peut-être que ça peut se faire ensemble, le DRH et le patron. Je ne sais pas ce qu'en pense la NDRH, mais moi, je pense qu'un patron, un manager d'une grosse boîte, il doit savoir ce que c'est que d'avoir le mec en face de lui, d'avoir sa situation de famille avant et de le licencier. Je pense que c'est un devoir... qui devrait être un devoir personnel un peu éthique.
Mais je ne sais pas ce que vous en pensez, Sophie de Menton, mais je pense qu'on va poser la question à Jean-Paul Charlèze.
Le travail d'un DRH, ce n'est pas toujours très agréable. Ceci étant, quand une entreprise est dans une mauvaise situation, il y a peut-être une chance ou une opportunité qu'elle s'en sorte avec, en réduisant un peu la voilure, quitte d'ailleurs à reprendre après son développement.
Mais s'il doit y avoir licenciement, est-ce qu'il vaut mieux confier cette tâche aux DRH qui auront peut-être une meilleure expérience, une meilleure expertise que directement au patron?
Dans la réalité, le DRH, il va négocier le PSE avec les syndicats. Bon, et va essayer de
PSE, s'entendre. On rappelle, un plan de sauvegarde de l'emploi.
Pardon, ce qu'on appelle par
les
par
anciens
raccourci, plans sociaux. Bon, on va négocier avec les syndicats et s'entendre sur des compensations pour les départs et s'entendre sur les conditions des départs des gens. Je crois que le DRH, il est le mieux placé pour faire ça.
Pour la négo, mais quand il s'agit d'annoncer, parce que ce qui est très difficile, c'est de licencier. Enfin, moi, je l'ai vécu. Et licencier quelqu'un, c'est très difficile. Et je trouve que, autant je trouve ça normal, la négociation, le mieux placé, peut-être mieux formé aussi, mais je pense que le patron ne doit pas se laver les mains et...
J'ai pas dit ça, mais enfin, d'un autre côté, il ne faut pas non plus que le DRH refile les sales boulots au patron. Il
non,
est
non,
aussi payé pour
ensemble,
le faire.
Peut-être, oui.
Jean-François Amadieu.
Oui, non, mais c'est vrai qu'en principe, les DRH sont censés avoir eu une formation et avoir développé un certain nombre de savoir-faire, de compétences pour gérer ces situations. Pas seulement la négociation avec les partenaires, mais aussi non seulement le recrutement des gens, puisque c'est eux qui s'en occupent, mais le départ aussi. Et donc, normalement, ils sont censés le prendre en compte.
Quand vous dites qu'ils sont censés, ça veut dire que vous avez un doute sur la réalité de
cette
compétence ?
Oui, bien sûr, mais je ne suis pas en train de parler de ces formations que j'aime pas trop. On sait qu'elles suscitent la polémique sur comment apprendre aux gens à faire leur deuil de leur emploi, etc. Bon, ça, on sait que c'est un peu discutable. Non, mais il s'agit, puisque on sait que les DRH s'occupent également après de reclassement, etc. Donc, si vous voulez, il y a là tout un savoir-faire qui peut être développé. Je dis pas que les DRH l'ont tout le temps, mais finalement, on les attend sur ça. Et vous savez, la déception des salariés, elle est aussi quand c'est pas bien fait par les DRH. Parce que pourquoi les Français, les salariés sont souvent critiques sur leur DRH? C'est parce que justement, ils les attendent sur la gestion des carrières, ils aimeraient que les recrutements soient de meilleure qualité, qu'ils soient mieux traités. Et donc, dans l'ensemble du processus, effectivement, plus les DRH sont compétents, plus les gens vont trouver qu'en effet, les RH jouent leur rôle. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est un peu dramatique, c'est que vous vous souvenez que chez Orange, France Télécom et à La Poste, il a fallu des suicides et une médiatisation pour que finalement on remette des DRH, qu'on remette du pouvoir et des effectifs dans les RH et que finalement les DRH soient plus nombreux parce qu'ils avaient un peu disparu du terrain.
Alors,
donc si vous voulez, ça c'est un peu malheureux qu'il ait fallu en arriver là.
J'ai l'impression que vous avez encore énergie. énervé, Sophie non, de Menton.
Non, pas énervé, mais si vous voulez, je trouve que on a oublié les salariés. Moi, j'ai vu suffisamment de salariés qui disaient quand même le patron, il n'a pas eu le courage de me le dire moi-même. Je pense en particulier à l'encadrement supérieur. C'est très violent. Le patron, il est aimé ou parfois admiré souvent. Et le patron, c'est une symbolique qui est forte. Et je vais vous dire, quand vous avez des cadres, plus ils sont proches du patron, plus c'est fort. Plus ils sont loin, bon voilà. Ils trouvent ça très violent que le patron n'ait pas eu le courage de le dire. C'est ce qui ressort, parce que on l'a vu très souvent. Et ensuite de ça, le fait que le DRH, évidemment qu'il sait faire, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que le salarié a droit aussi que le patron lui dise lui-même.
Jean-Paul Charles, je vous ai pas fait réagir à cet extrait de film il y a quelques petites minutes, que les gros salaires lèvent le doigt, mais est-ce que vous diriez là aussi, comme fait de Menton, qu'on était seulement dans la caricature, ou bien est-ce que, en tout cas, ça peut témoigner voilà, d'une difficulté de trouver finalement qui on va licencier quand il y a besoin de mettre un plan collectif de licenciement, c'est-à-dire comment est-ce qu'on choisit et comment est-ce qu'on choisit de faire porter le poids du licenciement sur telle personne et pas sur telle autre.
Il y a des réglementations sur le sujet, pardon d'être un peu technique, mais sur le fond, vous supprimez des postes et non pas vous êtes pas vous traitez pas au niveau des personnes, et ce sont ces postes qui sont supprimés, et après les personnes sont mises sur les postes en fonction de l'ancienneté, de la charge de famille, de l'âge, etc. Donc il y a un certain nombre de mesures qui encadrent ça, et des compensations à la fois financières, des compensations sur le reclassement et le suivi des personnes, c'est-à-dire que quand on est obligé de se séparer de quelqu'un, on le laisse pas tomber et on le suit jusqu'à ce qu'il retrouve un travail, et encore une fois la priorité de réembauche qui permet de le réemployer dans l'entreprise même si l'entreprise est retournée à meilleure fortune. Quant au film, c'est une caricature qui alors ça fait, je peux pas dire que ça fait sourire, en fait c'est un peu trop poulet au vinaigre, si je rejoins Chabrol et Jean Poiret.
J'avais un peu hésité d'ailleurs avec un autre extrait de film qui celui-là est de Robert Guédiguian, Les Neiges du Kilimandjaro, où on voit au début une entreprise qui là aussi est confrontée à un plan social et où les leaders syndicaux décident de tirer au sort ceux qui seront licenciés plutôt que de devoir justement laisser la direction de l'entreprise choisir. Ils préfèrent prendre en charge finalement cette version. Bon, on est encore dans la fiction là, bien
oui,
sûr.
Oui, je suis heureux de travailler dans une entreprise et pas de faire de cinéma.
Mais allez, on va rester pour terminer. Je vous soumets juste une petite idée. Vous allez peut-être trouver ça un petit peu bizarre, mais alors on parle beaucoup de tirage au sort en ce moment. Et puis pendant la campagne présidentielle, il y a eu notamment dans les idées qui ont été évoquées l'idée de révoquer les élus. C'était par Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise, un référendum révocatoire. Et puisqu'on parle beaucoup du référendum d'entreprise aujourd'hui, je me disais, tiens, est-ce qu'on pourrait imaginer d'organiser un référendum dans une entreprise pour révoquer les patrons? Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-François Amadieu? Ou est-ce que là aussi on est totalement dans la fiction?
Je me souviens des années 70, fin des années 70, je crois que ça devait être de même dans les programmes avant que François Mitterrand soit élu. Et à l'époque, on était très autogestionnaire. Et il y avait une idée, c'était qu'on élirait on voterait pour son encadrement. Et que donc on pourrait se prononcer directement. Donc on était quand même pas loin de ces mécanismes et de vouloir introduire ces mécanismes de vote. Mais concrètement appliqué au monde de l'entreprise, complètement absurde là-dedans, parce que vous savez que les entreprises pourraient s'inspirer de pratiques d'entreprises américaines, de certaines grandes firmes américaines qui apprécient en particulier, qui aiment bien faire ce qu'on appelle du 360, c'est-à-dire de l'évaluation des chefs ou des hiérarchiques. Absolument. Par les subordonnés. Quand vous commencez à être évalué par les subordonnés, ça commence à ressembler à du référendum par vos subordonnés. Alors, c'est pas conçu comme ça dans les firmes américaines qui le font, mais c'est pour vous dire que c'est pas forcément une idée, je dirais, d'autogestionnaire, mais ça peut être aussi une idée américaine.
Mais l'évaluation, effectivement, c'est très fréquent dans les grandes entreprises américaines. C'est d'ailleurs, ils ont très peur, c'est difficile. Alors, j'aime pas du tout, effectivement, cette pratique, entre guillemets, autogestionnaire. Toutefois, Je pense que quand il y a un très mauvais patron, manager surtout, à la limite, le créateur de la boîte, il a créé sa boîte, bon, et il peut faire faillite, il a pris ses risques. Vous avez un très mauvais manager qui fait perdre un fric fou à l'entreprise, c'est a priori aux actionnaires de le virer, et je pense que c'est normal. Et pardonnez-moi, mais quand je vois une entreprise comme la SNCF qui perd des millions depuis des années, qui fait des erreurs absolument colossales, y compris avec des plans de communication épouvantables, jamais on supporterait ça dans une boîte privée, et je pense qu'on renouvellerait pas la confiance au président pendant des années.
Et le PDG de la SNCF ou vous virez le ministre des Transports parce que les responsabilités sont quand même assez partagées.
Très sympathique le président de la SNCF, donc il ne s'agit pas de vouloir le virer, il s'agit que faire de telles erreurs de gestion et perdre tellement d'argent, ça pose des questions.
Jean-Paul Charles, juste d'un mot.
90% des raisons qui font que quelqu'un reste dans une entreprise ou qu'il la quitte dépend du chef direct. Donc je pense qu'on ne peut pas manager sans avoir l'adhésion des personnes qui travaillent avec soi.
Merci à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Jean-Paul Charles, Sophie de Menton et Jean-François Amadieu. Émission que vous pouvez réécouter, évidemment, comme chaque soir, sur notre site internet franceculture.fr. Merci à l'Université d'été du MEDEF de nous avoir accueillis ce soir à Julien Josas. Aux équipes techniques, Nicolas, Mathias et Marcos Darras. Émission réalisée par Véronique Villa, préparée par Virginie Leduo, Fanny Richer, Antoine Tricot, Antoine Dulster et Eva Pellerin.